Radioscopie.
Robert Merle.
Jacques Chancel. Robert Merle, vous êtes écrivain chargé de diplômes. Alors moi, je suis un peu curieux. Je voudrais savoir si ces diplômes ont été des sources de vie pour votre écriture.
Oui, on peut dire que ça a été une source. D'abord, il a fallu les acquérir. Oui. Bon, alors ça veut dire qu'il a fallu étudier un certain nombre d'années. Mais ce n'est pas mes diplômes, finalement, qui ont fait de moi ce que je suis.
Oui, mais je les rappelle, ces diplômes, quand
oui,
même.
Oui, c'est ça.
Licencié
oui.
en philosophie, agrégé d'anglais...
Oui.
C'est bien cela. Docteur ès lettres, bon, professeur, vous avez... Bon, c'est quand même lourd.
Oui.
Ça fait beaucoup d'années de travail.
Ça fait beaucoup d'années de travail. Et
des
ça
années
fait...
perdues.
Ah non, pas du tout. Ah non, les années de travail ne sont jamais des années perdues. Non, non, pas du tout. Ça a été des années très fécondes. Par exemple, j'ai consacré 10 ans à ma thèse sur Oscar Wilde. Ce qui fait qu'avec la guerre, je n'ai pu commencer à écrire un roman qu'à 40 ans. Mmh. Mais finalement, ça m'a servi énormément de m'être appliqué pendant tant d'années et d'avoir écrit ce livre que je considérais comme mon premier livre.
Alors, professeur, vous l'avez été?
Je le suis encore, j'ai gardé une heure à Nanterre.
Et vous l'êtes encore?
Oui, j'ai gardé une heure à Nanterre.
Pourquoi
oui.
avez-vous gardé justement cet enseignement?
Je peux pas me
le contact avec les élèves?
Ah oui, je ne peux pas me passer de mes étudiants. Ah, absolument pas. Alors, je fais une heure, et cette heure ne m'est pas payée. Vous savez, c'est drôle, parce que comme je suis en retraite, je ne peux pas cumuler. Alors, je suis payé par le département d'anglais qui, n'ayant pas d'argent, ne me paye pas. Mais je suis très content comme ça.
Alors, quel est cet enseignement? C'est l'anglais?
Oui, j'enseigne 2 auteurs. J'enseigne Byron et Oscar Wilde. Oui. Bon, qui me plaisent particulièrement.
Avec lesquels vous aurez vécu tout, vraiment, je ne sais plus combien d'années.
Ah oui, oui, oui. Byron quant à sa vie et Oscar Wilde plutôt quant à son œuvre.
Alors, vous pouvez vous rapprocher d'auteurs comme ceux-là. Bon, vous me parlez de Byron, on pourrait parler du dandysme. Et on parle d'Oscar Wilde, on pourrait parler d'homosexualité.
Oh, ça ne me gêne pas du tout de parler d'homosexualité. D'ailleurs, j'ai écrit une thèse tout à fait révolutionnaire.
C'est pour cela que je vous en parle.
Oui, parce qu'on m'avait dit, surtout, ne réveillez pas un scandale sur lequel tout était dû. Vous savez, c'était avant la guerre. Hein. Les gens n'avaient pas l'esprit très, très ouvert. Ils m'avaient dit, surtout, n'en parlez pas. Ben, moi, je me suis dit, parler d'Oscar Wilde, qui a fait 2 ans de prison parce qu'il était homosexuel, c'est vraiment idiot. Pourquoi cette espèce de pudeur? Bon, alors j'ai étudié... Son œuvre, et j'ai étudié aussi son homosexualité, et j'ai montré les liens évidents qu'il y avait entre son homosexualité et son œuvre. Finalement, votre sexualité, ça colore énormément votre œuvre. Ça la colore même profondément, presque à chaque page.
Votre enseignement, donc, a été, par rapport à l'écriture, une nécessité. Vous n'avez jamais souhaité l'abandonner, et vous n'avez pas voulu être celui qui ne vit que de sa plume.
Eh bien, j'ai essayé de l'abandonner. Après 68, 69, il y a eu des périodes très dures. Pas tellement 68, qui était plutôt amusant en Nanterre, mais 69, ça a été assez dur, parce que la Révolution continuait à vide. Mmh. Bon, c'était... Alors, les gens faisaient n'importe quoi. Ils entraient dans un bureau, ils sortaient les secrétaires en les malmenant, ils emportaient les machines à écrire. Enfin, c'était la chienlit, vraiment, en 69. Bon, alors, à ce moment-là, j'ai demandé un congé. J'ai demandé un congé de 4 ans, mais je l'ai regretté ensuite. Parce que ces 4 ans, sans aller à Nanterre et sans voir mes étudiants, ça a été pénible. Alors c'est pour ça que quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit non, je ne veux pas abandonner mes étudiants, je vais garder une heure.
Alors vous parlez de retraite, vous lancez ce mot parce que justement, il ne vous éprouve pas le mot.
Ah non, non, pas
du
tout.
Cette retraite, vous ne la prenez pas.
Ah non, 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 je ne me rappelle plus même le moment où je l'ai prise, puisque pour moi, travailler, c'est tout à fait essentiel. Et écrire, surtout, est essentiel.
Alors, Robert Merle, vous constatez que vous avez quand même un rôle privilégié et que vous bénéficiez de ces privilèges par rapport à vos collègues, les autres professeurs, qui, lorsqu'ils prennent leur retraite, la prennent vraiment.
Oui, ils la prennent vraiment. Cependant, il y a des gens qui continuent à être actifs. Par exemple, j'ai un de mes amis qui, après sa retraite, a fondé une université pour gens du 3e ou 4e âge. Ça, c'est chouette. Et ça le maintient. Et c'est un de ceux qui sont le mieux en forme. Il a à peu près mon âge, je pense, et il est très en forme.
Alors aujourd'hui, on peut faire le compte. Il doit y avoir 17 romans. Je ne sais pas.
Enfin, oui, ça doit être ça,
à peu
17
près
romans.
Cela. Deux essais, 2 biographies, quelques pièces de théâtre,
oui,
si vous aimez
oui,
le théâtre, et une poignée de traductions, parce que vous aurez tout fait.
Oui, oui, oui.
Alors c'est vraiment le nécessaire.
Oui, mais les traductions, je le faisais avec ma femme. Et c'était une activité, comment dirais-je, de bon compagnonnage. Bon, alors je le faisais avec ma femme. Et puis alors le moment est venu où j'ai pu plus le faire avec elle. Alors elle continue toute seule.
Alors quels sont les livres que vous retenez dans votre œuvre ?
Bon, alors je dois vous dire, Jacques Chancel, qu'il y a des choses qui m'énervent. C'est lorsque les gens me disent « Ah, monsieur Merle, comme j'ai aimé votre week-end à Zutkot. »
À cause du film. Ouais.
Non, le film était bon. Non, c'est pas pour ça.
Je croyais que vous alliez deviner le film tout
de
suite.
Non, pas du tout. Non, ce qui me fait de la peine, c'est que depuis week-end à Zutkot, j'ai écrit 16 livres, ouais, dont certains ont été beaucoup plus célèbres en France et à l'étranger que week-end à Zutkot. Et les gens disent toujours week-end à Zutkot. Par exemple, les gens ne disent pas « L'amour est mon métier ». Mais « L'amour est mon métier », je considère que c'est un livre, pour moi, qui est plus important qu'au week-end à Zutkot. Puis il y a Malville, il y a Lille, enfin, il y a tous mes romans historiques.
Oui, aussi. Mais ces livres, quand même, ont eu tous beaucoup de succès. C'est vrai que week-end à Zutkot vous énerve, sans vous énerver, mais enfin...
Ah non, je ne le renie pas. Hein.
Et puis, en plus, c'est un prix Goncourt.
Oui, c'est un prix Goncourt.
C'est quoi,
oui.
En 1949
49.
Hein, 49. 49. Il y a 40 ans.
Oui, il y a 40
ans. 40 ans. Et alors, un prix Goncourt qui aide quand même pour toute une vie, qui peut casser aussi une vie d'écrivain.
Carrière, vous direz que ça l'a profondément
desservi. Lui, il a
desservi.
Été...
Oui, ouais. Il a été desservi. Bon, moi, ça ne m'a pas desservi parce que...
Jean-Louis Borry aussi,
ça l'a un peu cassé. Ouais. Moi, ça ne m'a pas cassé parce que j'ai continué à écrire et j'ai continué surtout à avoir foi en ce que j'écrivais. Et je crois que c'est la grande différence, vous voyez. C'est, moi, je voulais écrire une œuvre. Bon, c'est... Bon. Alors, je me suis lancé et je continue.
Alors, La mort est mon métier, et donc pour vous, si l'on fait les comptes, le livre qui tient le plus à votre cœur.
Je ne dirais pas ça, parce que alors je me...
Et pour quelle raison?
Je me donnerais l'impression que je suis une mauvaise mère et tout ça, etc.
Non, pas du tout. Mais on choisit,
mais,
on peut choisir.
Si, si j'avais un choix à faire, et si un choix, disons, pédagogique, si je devais dire celui de mes livres que j'aimerais être étudié dans toutes les écoles, je dirais c'est La mort et mon métier. Parce qu'il s'agit, de la vie du commandant d'Auschwitz. Et je retrace la genèse de l'usine de mort. Et c'est pour ça que ce livre me paraît très important. C'est parce qu'il y a des gens qui nient cette usine de mort. Alors, il me paraît très important pour moi que ce livre soit lu. Vous savez, j'avais fait une étude documentaire très sérieuse sur les archives de Nuremberg. Et quand on a une ombre d'honnêteté intellectuelle, on ne peut pas ne pas conclure qu'il y a eu là une usine de la mort qui a tué de sang-froid des millions d'êtres humains.
Le titre, d'ailleurs, est terrible. La mort est mon métier.
Oui, parce que je l'ai... Alors, c'est l'astuce du livre. J'ai voulu que ce soit le bourreau qui parle. Oui. Et j'ai voulu cela parce que j'étais tellement indigné et tellement dégoûté que je me suis dit, si je fais ça à la troisième personne, je vais passer mon temps tout le long des pages à l'injurier et ça perdra un petit peu de la sérénité de l'art. Alors, je me suis dit, en lui donnant la parole à lui et en lui montrant tel qu'il a été... C'est-à-dire, non pas un sadique, mais une sorte de machine, d'homme qui a été tourné par une certaine idéologie dans une vraie machine.
Avec peut-être un enfant qui était beau au départ, qui était vertueux peut-être.
Il n'était pas vertueux, il était dans un milieu très cagot, très bigot.
Ah oui.
Et il a pris là l'habitude d'une obéissance complètement passive et d'un renoncement à son esprit critique.
Manipulé.
Il a été manipulé, c'est ça. Au fond, c'est ça. Il a été une machine dès le début. Et alors, bon, il était plein de vertus, il était bon époux, bon père, etc. Vous savez ce que vous avez dit tout à l'heure, les enfants blonds, etc. Bon, mais c'était son cas. Bon. Et puis, c'était un petit fonctionnaire zélé et ponctuel qui se faisait beaucoup de mauvais sang parce qu'il disait « Himmler va m'envoyer 300 000 juifs hongrois et je ne sais pas comment je vais m'en tirer. »
Je ne sais pas comment je vais pouvoir les tuer.
C'est ça. Il avait des
il avait
des problèmes de rendement.
Oui.
C'est ça. Et d'ailleurs, quand vous lisez les archives de Nuremberg, quand on lui annonce qu'on lui envoie 3000 Hongrois, on ne dit pas 3000 Hongrois, on ne dit pas 3000 Juifs, on dit 3000 Stucs, des morceaux. Et on ne dit pas non plus qu'il faut les tuer, on dit qu'il faut les soumettre à traitement spécial. Bon, alors voyez-vous, c'est une mécanisation absolue. Et cet être qu'on ne peut pas encore appeler humain, qui est en train de tuer comme ça, méthodiquement.
Je voudrais savoir, Robert Merle, ce que vous pensez de ceux qui prétendent qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz. Ils sont très rares, mais enfin, ils ont beaucoup écrit.
Devant des
témoignages comme ceux-là, qui existent, il suffit...
Il suffit d'aller consulter les archives de Nuremberg, c'est très simple.
Alors, qu'en pensez-vous ?
Non, alors, moi, je crois qu'ils sont emportés par la passion politique. Vous savez, il y a des gens, par exemple, il y a des médecins qui, pendant très longtemps, ont professé des choses tout à fait fausses en médecine parce qu'ils appartenaient à une loi religieuse très stricte. Mmh. Et cette loi religieuse très stricte déformait leur vision. Eh bien, ces historiens, qui, à mon avis, ne méritent pas le nom d'historiens, ce sont des historiens qui ont été emportés par la passion politique. Ils ont un souci apologétique du régime hitlérien.
Oui, et nous avons parlé donc de ce livre, La mort est mon métier. Auschwitz, c'était en 1900, les années noires, 1943. Et le livre est sorti en 1952. Et je me demande si une aventure effroyable, tragique comme celle-là, si un camp comme celui d'Auschwitz pourrait être... je ne sais pas, reconstituer un jour. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut se poursuivre ?
Hélas, oui.
Oui.
Hélas.
Et vous pensez à la Chine en ce moment ?
Je suis absolument certain que les génocides du type arménien... Bon, il est clair que les Turcs ont tué un million et demi d'Arméniens. Bon. Ou le génocide des Juifs, ça peut recommencer. L'être humain n'est pas guéri. Et le preuve qu'il n'est pas guéri... c'est qu'il y a des gens qui nient qu'il y ait eu un fait de ce genre. Alors, je ne suis pas pessimiste quant à l'homme. Bon, je ne dis pas que l'homme est radicalement mauvais, ce n'est pas vrai du tout. Mais l'homme, il est capable de faire ce genre de choses.
C'est votre formation d'universitaire qui vous a fait vraiment réaliser que vous deviez vous trouver très près de l'homme. Parce que lorsqu'on regarde votre œuvre, lorsqu'on lit vos livres, on s'aperçoit que ils sont, vos livres, pleins de combats contre les inégalités, contre la torture, contre la violence, contre tous les maux de ce temps. Et je veux dire, de ce côté-là, vous allez être bien servi parce qu'il y a des sujets de conversation et d'écriture. Et ça continue.
Ça continue.
Parce que vous pouvez ajouter la violence, l'intolérance, le fanatisme religieux.
Le fanatisme religieux. Je le traite dans mes romans historiques, le fanatisme religieux.
Alors parce que, on n'a pas parlé de Fortune de France, mais on en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a l'injustice raciale, et c'est Lille.
C'est Lille, oui.
C'est Lille. Il y a le danger nucléaire, et on le sait, c'est Malville. Et puis la télévision vous a beaucoup aidé en ce sens. Et puis il y a la survie de l'espèce avec les hommes protégés. Alors aujourd'hui, quel est le livre, et on reviendra au propre de l'homme, qui est votre dernier roman, qui paraît aux éditions de Fallois, on y reviendra vite, mais quel est le livre qui vous paraîtrait être véritablement de première actualité, là ?
Je pense
vous n'avez pas envie d'écrire sur la Chine l'espoir, la répression, la délation, la mort, ce qui se passe en ce moment ?
Vous savez, je pense qu'il y a un côté artistique et puis il y a un côté, disons, militant chez moi, comme toujours. Bon. Alors, je pense que le livre où il y a le meilleur équilibre entre l'angoisse que posent les problèmes du jour et le côté artistique, c'est probablement Malville. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut quand même qu'il y ait un certain équilibre. Alors, de quoi mon œuvre future sera faite ?
C'est-à-dire la peur du danger nucléaire.
La peur du danger nucléaire et surtout la survie de l'espèce. Moi, je suis très préoccupé par la survie de l'espèce, comme tout le monde d'ailleurs, parce que la survie de la planète n'est pas du tout assurée. La survie d'un grand nombre d'espèces animales est tout à fait douteuse. Et on est en train d'appauvrir la planète quant à la faune et quant à la flore, et même quant au climat. Bon, les gens continuent à utiliser des bombes comme si l'ozone n'était pas menacé. Il y a une inconscience générale. L'homme pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Bon, alors, de ce point de vue-là, il y a aussi un problème très urgent.
Êtes-vous content de tout ce que vous avez écrit, de tout ce que vous avez fait ? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a ces 17 romans, il y a ces biographies, il y a ces traductions. Il y a aussi un engagement. Ça n'est pas en vain qu'on écrit ou sur Fidel Castro... ou sur Che Guevara.
Oui,
qu'on a donné un sens à sa vie, quand même.
Oui, alors là...
Et qu'on s'est peut-être un peu trompé.
Bien sûr.
Parce qu'on ne peut pas dire que Fidel Castro, ce soit le rêve et vraiment le grand pan de la démocratie.
Attendez, alors si vous me permettez, Jacques Chancel, puisqu'on parle de mon engagement politique, il faut mettre les doigts sur les i.
Ah bah oui, tout à fait.
Oui, bon, Alors, j'ai été surtout et avant tout un tiers-mondiste.
Oui.
Et les positions militantes que j'ai prises étaient des positions contre la colonisation, pour la décolonisation, à la fois en ce qui concerne la France et en ce qui concerne les États-Unis pour l'Amérique latine. Mmh. C'est la raison pour laquelle je suis allé à Cuba et j'ai écrit un livre sur Fidel Castro. C'est-à-dire, c'est une libération de la colonie américaine de Cuba qui devenait indépendante. Bon. Alors, ce qu'elle est devenue ensuite, eh bien, bon, ce n'est pas devenu une démocratie.
Non, je ne le pense pas.
Voilà, c'est ça qu'on peut dire.
Et vous le regrettez ?
Ah ben oui, je le regrette. Je le regrette d'autant plus.
Non, vous regrettez votre livre ?
Ah non, je ne regrette pas mon livre, parce que mon livre montrait la nécessité de décoloniser Cuba. Mais surtout, je ne regrette pas d'avoir rencontré Fidel Castro, qui est un personnage tout à fait remarquable et étonnant. Alors, bien sûr, j'aurais préféré qu'il instaure une démocratie. Il ne l'a pas fait. Mais cependant, c'est à mes yeux, encore, c'est un homme de génie. Et si c'est un dictateur, ce n'est pas un dictateur de droite comme l'était Batista ou comme l'était Machado, qui exploitait la misère et qui même la multipliait. C'est quelqu'un qui a construit des hôpitaux, qui a fait des écoles et qui a essayé de donner à manger à son peuple. C'est déjà ça.
Mais c'est très amusant quand même, Robert Mel, de voir les choix que l'on peut faire. Là, c'est vrai, vous avez choisi d'écrire sur Fidel Castro. Ensuite, vous avez choisi d'écrire sur Che Guevara. Et vous avez également écrit sur Ben Bella.
Oui.
Ça fait une série de personnages,
oui,
quand même.
J'étais tiers-mondiste. Oui. Vous savez ce que j'ai fait en 62. J'ai quitté la France et j'ai été enseigné l'anglais à Alger. Alors les gens m'ont dit, mais vous êtes fou, 62, vous rendez compte, vous allez vous faire égorger, etc. Ils ne m'ont pas égorgé du tout, ça a duré 2 ans et j'ai été très content. Vous savez, je faisais partie de ce que les Algériens, avec beaucoup d'esprit, appelaient les pieds rouges. Nous n'étions plus les pieds noirs, nous étions les pieds rouges. Bon, alors j'étais un pied rouge, voilà. Alors,
Robert Merle, vous vous racontez très bien, vous savez parler de vous, alors je voudrais savoir si ce que vous avez écrit est encore aujourd'hui parfaitement exact. Et vous parlez de vous. Hein. Voici un homme d'un certain âge, ferme dans ses principes, consciencieux dans ses obligations, d'une tournure d'esprit sérieuse, bien que d'humeur enjouée, et très soucieux de l'avenir de la planète et des siens. Et pourtant, que fait-il ? Il passe le plus clair de son temps à imaginer des fables.
Oui.
C'est vous, ça ?
Oui, c'est moi, tout à fait. Oui.
Mais la fable, elle dépeint et elle raconte...
Je ne sais plus du tout où j'ai écrit ça. Non,
vous l'avez écrit.
Je l'ai écrit. Bon.
La fable dépeint quand même et raconte une réalité.
Oui, la fable a toujours comment dirais-je, un substrat tout à fait sérieux. Il y a toujours une base qui est tout à fait sérieuse, avec une inquiétude, une angoisse, une vérité que je veux souligner. Mais évidemment, c'est une fable. Bon, alors, il faudrait expliquer qu'il y a un côté qui n'est pas du tout le militant classique, que j'ai gardé cette faculté qu'ont les enfants d'imaginer des choses. Quand j'étais petit, je passais mon temps à imaginer des histoires et à me les raconter. Et je me les racontais en dialogue. Vous avez remarqué le nombre étonnant de dialogues qu'il y a dans mes romans. Eh bien, ça tient de ma 9e et ma 10e année. Bon, alors, en un sens, je suis resté un enfant. Comme d'ailleurs, à mon avis, tous les artistes sont restés des enfants. C'est-à-dire qu'ils sont restés fidèles à une vision du monde qui est une vision imaginative. Alors, c'est là où on peut dire que j'écris des fables.
Oui, mais cette vision imaginative s'accroche quand même à des réalités.
Ah oui, ça s'accroche au réel.
C'est-à-dire que ce n'est pas l'imagination pure,
oui,
où on invente des mondes qui n'existent pas.
Ce n'est pas le grand monde.
Non,
ce n'est jamais le grand monde.
Donc, vous vivez avec votre siècle.
Ah oui, je vis toujours.
Et vous ne vivez que des inquiétudes de ce siècle.
Oui, absolument. Et ce sont les miennes, d'ailleurs. Ce sont les miennes.
Donc, beaucoup de pessimisme.
Non.
Quand même.
Ah non, écoutez, alors je
vous
crois
que... Vous ne choisissez pas le plus heureux. Hein.
Mais non, je pense qu'entre le pessimisme et l'optimisme, je dirais que je suis de tempérament, et peut-être même génétiquement, formidablement optimiste, mais que je suis, comment dirais-je, de par la lucidité, pessimiste. Mais les deux se mélangent. Je ne suis pas pessimiste au point de perdre ma joie de vivre. Et la joie de vivre, elle est visible dans tous mes livres.
Alors vous êtes, Robert Merle, celui qui a de très nombreux lecteurs. D'abord une œuvre et un public.
Oui. Bon,
je dois dire qu'on ne peut pas dire quelle est la recette, parce que s'il y avait une recette, tout le monde l'emploierait.
Il n'y en a pas.
Mais vous pouvez peut-être vous interroger et y répondre. Pourquoi ai-je tellement de succès ? Pouvez-vous demander cela ?
Eh bien, oui, je me le suis demandé.
Alors, quelle est la réponse ?
Je me le suis demandé d'autant plus qu'il y a des gens qui me le reprochent. Vous savez, il y a des gens qui me disent « Mais enfin, comment c'est scandaleux, chaque fois qu'il écrit un livre, tout le monde le lit, etc. » Bon, d'abord, je ne suis pas démagogique. Je n'essaye jamais, quand j'écris un livre, de plaire à un public ou à une section de public. Je crois que si les gens aiment mes livres, c'est qu'ils m'aiment moi. C'est-à-dire, ils aiment le genre d'esprit que j'ai. Et ils aiment aussi, disons, comment dirais-je ? Le fait que c'est toujours très artistique Et c'est toujours, enfin, je ne voudrais pas employer un mot trop prétentieux, disons que c'est toujours écrit d'une façon très professionnelle. Employons le mot américain, hein, comme ça.
Oui, professionnel.
C'est comme ça, ça dégonflera un peu la grosse tête. Hein. Oui. Alors, disons, les Américains...
La littérature est un métier.
Ouais, la littérature est un métier. Bon, alors, on peut avoir, à côté, si on peut avoir du talent, du génie, enfin, etc. Bon, mais laissons ça...
Il y a Proust à côté,
c'est
d'accord.
C'est ça. Parfait. Bon, alors, si, bon, très bien. Mais... Je crois que les gens sont sensibles à un roman qui est conduit de façon telle que de la première ligne à la dernière ligne, ils sont intéressés. Voilà comment j'explique mon succès.
Avec quand même un côté professionnel par rapport à la réussite.
Ah oui, oui,
parce
oui.
Si je prends Fortune de France, bon, je sais que c'est tout un pan de la Renaissance et que dans le même temps, comme ça marche bien, eh bien, vous allez très profond dans le sillon et vous en profitez. Et vous avez raison. Ah si.
Hein? Non, Jacques Chancel, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que je ne le pense pas. Bon, alors, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Quand j'ai écrit le premier volume de Fortune de France, je l'ai écrit en langue archaïque. Mmh. Bon, et je prends des risques. Bon, et je me suis dit, je vais me casser la gueule. Mmh. Bon, alors, quand on m'a demandé si j'allais en écrire plusieurs, j'ai dit, je ne sais pas. Et puis, à mon grand étonnement, mais vraiment à mon grand étonnement, une des choses que les lecteurs ont le plus aimé dans Fortune de France, c'était justement la langue archaïque. Je n'ai jamais reçu autant de lettres de lecteurs. Ça m'a encouragé, d'autant plus que je ne l'avais pas maîtrisé complètement dans le premier volume. Alors, j'ai écrit un deuxième volume et un troisième volume. Mais je n'ai pas exploité une veine. C'est simplement que j'ai été rassuré par le succès du premier livre. Ce que j'aurais fait si le premier livre n'aurait pas eu de succès, j'aurais peut-être continué, mais peut-être en faisant attention à l'archaïsme.
Mais c'était la langue ou c'était l'histoire qui vous passionnait? Vous êtes passionné par la Renaissance?
C'était les deux. Pour un écrivain, et disons aussi maintenant carrément pour un artiste, employer un médium nouveau, employer un moyen nouveau, c'est comme pour un peintre trouver des teintes nouvelles ou des couleurs nouvelles ou des combinaisons nouvelles, c'est tout à fait grisant. Moi, j'ai été absolument ravi d'écrire cette langue archaïque. J'ai éprouvé un plaisir fou.
Vous ne me parlez toujours pas de l'histoire.
Ah oui, oui.
L'histoire de l'importance,
non? Non, mais l'histoire est très importante pour moi, parce que c'était... Qu'est-ce que c'était? Ces six volumes, c'était montrer l'intolérance et faire un plaidoyer pour la tolérance. Ça finit par quoi? Ça finit par l'édit de Nantes, qui réconcilie les gens qui s'est trippé, parce que les uns étaient huguenots et les autres catholiques. Alors, je montrais la montée des intolérances, parce qu'il y en a eu deux. Il y en a eu deux intolérances, mais bien sûr, comme les huguenots étaient plus faibles, c'était surtout eux qui ont tué. Et moi, je suis plutôt enclin à prendre le parti des faibles.
Vous pouvez refaire une série comme celle-là, avec les intégrismes.
Je pourrais refaire.
La matière, elle est riche.
Ah oui, la matière, elle est riche.
Alors, vous parlez, Robert Merle, de langue archaïque. Et là, je m'amuse beaucoup parce que c'est une question de mots aussi. C'est une manière de dire, bon, je suis agrégé d'anglais, je me consacre à cette langue. Vous savez que l'anglais, mieux que n'importe qui, on peut faire des titres très raccourcis avec l'anglais, ce que le français ne permet pas.
C'est merveilleux, l'anglais comme langue, c'est merveilleux.
Et puis vous dites, mais je parle aussi mon français, je suis agrégé d'anglais, mais je suis français.
Ah oui, mais ce n'est pas, comment dirais-je, le fait que je suis agrégé d'anglais m'a beaucoup aidé à employer des mots de l'ancien temps. Oui. Parce que nous avons perdu au XVIIe siècle énormément de mots. Et les Anglais les ont conservés, ces mots-là. Par exemple, remembrance. Bon, on ne dit plus remembrance en France, mais c'est un mot qui est resté. Le mot bargain, qui veut dire un marché en anglais, en vieux français, c'était bargouin. Alors, les Anglais ont conservé bargouin, et nous... Bon, le mot flirt, qui est un mot anglais, mais ça vient de fleurette, on disait compter fleurette. Et vous savez, quand j'écrivais Fortune de France, j'étais toujours en train de regarder dans mon dictionnaire d'anglais, et quand une fois que j'avais trouvé le mot... Je disais, ah, mais il doit exister aussi dans le livre du XVIe siècle. Et je me précipitais, et il était aussi dans le livre
vous
du XVIe siècle.
Vous pourriez faire ce dictionnaire, les mots anglais que nous employons et qui sont en fait, au commencement, des mots français.
Ah ben oui, mais enfin, ça a déjà été fait.
Ça a déjà été fait. Alors, il y a également ceux que vous pouvez aimer. Si vous avez un nombre public, vous avez, vous aussi, des admirations. Quels sont les livres que vous lisez?
Ah, voilà. Alors là, je vais vous décevoir, Jacques Chancel.
Vous ne lisez personne.
Non. Je lis des choses. Ah bon. Je lis des choses. Mais je lis de moins en moins de romans. Je lis de moins en moins de romans, ce n'est pas à cause d'un immense mépris pour les autres romanciers que moi-même, je ne suis pas à ce point napoléonien, mais c'est simplement parce que je n'ai pas le temps d'écrire des romans. Parce que vous avez vu la façon dont je me documente pour un livre. Pour écrire ce livre-là, j'ai lu une centaine de livres, plus des articles. Donc je n'ai pas le temps de faire ça. Je n'ai pas le temps de lire des romans.
Vous ne vous occupez que de votre propre travail.
Non. Il m'arrive de lire des choses qui ne sont pas de mon travail, mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le roman. Ce sont par exemple des études psychologiques ou des études historiques ou des choses de ce genre ou des récits de voyage. Par exemple, avant d'écrire ce roman, j'avais lu les souvenirs de Jane Goodall sur les chimpanzés, j'avais lu le livre de Diane Fossé sur les gorilles, mais je lis des choses comme ça. Par exemple, j'avais lu la scolastique freudienne de Pierre de Bréritzen, parce que je ne suis pas d'accord, moi, avec la façon dont Freud traite la sexualité. Je pense que c'est un petit peu, comme dit Pierre de Bréritzen, d'ailleurs, des vérités révélées. Bon, moi, j'aime pas les vérités révélées. Je préfère les vérités prouvées. Bon, alors, je lis des choses comme ça. Vous voyez, je lis le rapport Haidt. Je lis rapport Kinsey, je lis des choses de ce genre.
Mais c'est du travail, tout ça. Vous n'allez pas lire des choses qui peuvent vous détendre, des romans.
Si, par exemple.
Des biographies.
Bon, alors j'ai possédé une ferme en Afrique, j'ai trouvé ça fantastique. Bon. Alors, s'il y a des livres. Mais plutôt. Enfin, j'ai une tournure d'esprit qui me porte plutôt à lire des choses. Bon, bien sûr, je connais les romans, les grands romanciers. Je pense que je les connais même mieux que d'autres, parce que je connais à la fois les romanciers français du 19e et du 20e, et les romanciers anglais, et les romanciers américains, et les romanciers russes. Bon, mais ceci dit, ce sont les grands ancêtres, les gens qu'on peut toujours lire et relire. Vous savez, moi, je ne méprise pas le roman du 19e, pas du tout.
Robert Merle, donc, 22 ans après Un animal doué de raison, puisque Un animal doué de raison a été publié en 1967, hein, publiez aujourd'hui aux éditions de Fallon, loi, le propre de l'homme. Et vous avez toujours été passionné par le langage des animaux. Et vous écrivez dans la préface déjà « Mon affection pour les animaux et mon intérêt pour le problème qu'ils nous posent, la communication de leur espèce avec la nôtre, ne date pas d'hier. » Et vous ajoutez « Je vis à la campagne et nous y avons comme amis des chevaux, ou nous y avons eu comme amis des chevaux, des chiens et des chats qui, de leur côté, ont bien voulu considérer que nous étions les leurs. » Alors, Le propre de l'homme n'est pas le premier livre que vous avez consacré à un animal. Il y a 22 ans, en effet, vous avez publié chez Gallimard un roman qui mettait en scène un couple de dauphins à qui un chercheur américain avait réussi à apprendre l'anglais. Et moi, les dauphins me passionne, m'ont passionné. Et lorsqu'on voit les films, et on en parlera un tout petit peu, bon, tout le monde dit que les dauphins parleront demain, sont déjà des espions. Vous avez tout ce que l'on dit sur les dauphins. Ont-ils vraiment cette intelligence?
Bon, alors écoutez, si on va essayer.
Où va-t-on?
On va essayer de trier tout ça, parce qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. Oui. Le dauphin est un animal employant un adjectif féminin qui n'est pas déplacé. C'est un animal adorable par sa gentillesse, par sa beauté, par sa bonne humeur, son côté enjoué et le fait qu'il est absolument pas méchant. Alors qu'il pourrait l'être, hein, parce que c'est très fort, un dauphin. Alors, en plus, c'est un animal très intelligent. Alors, pour la question du langage, le dauphin, c'est pas vrai que le dauphin parle anglais. Ça, c'est mon extrapolation d'un animal doué de raison.
C'est le romancier.
C'est le romancier, oui. Ça. Bon, c'est pas vrai. Mais le dauphin a surtout été étudié aux États-Unis par la marine américaine de guerre qui voulait en faire un auxiliaire. Et elle y a réussi. Parce que dans le golfe du Tonkin, on les a employés contre les hommes grenouilles nord-vietnamiens.
Tout à fait.
Et on les a employés dans le golfe Persique pour détecter des pièges sous-marins, des mines sous-marines. Bon. Alors, pour faire ces choses-là, on a dû employer un langage. Alors, l'hypothèse que j'ai faite, comme il parle un langage sifflé, il parle un langage sifflé, très joli d'ailleurs, il parle un langage sifflé. Alors, mon hypothèse à moi, parce que c'est un secret militaire, bon, mon hypothèse à moi, c'est qu'on a décodé leur langage sifflé et qu'on leur parle dans leur langue au lieu d'essayer de leur apprendre la nôtre. Voilà mon hypothèse et je crois qu'il y a... Il y a de grandes chances qu'elle soit vraie.
Mais cette intelligence est quand même tout à fait remarquable. Il suffit de voir les démonstrations des dauphins, l'orque aussi. Mais les dauphins, toutes les figures qu'ils dessinent dans le ciel, ce dressage tout à fait particulier, ne peut obéir qu'à une intelligence.
Oui,
mais exceptionnel.
Et vous savez que ce sont...
Parce que vos petits singes, ceux que vous aimez, ils n'arriveront jamais à ça. Hein.
Vous parlez des chimpanzés?
Oui, oui.
Oh, mais non, il faut
Je vous ai vexé, là.
Ah, vous m'avez vexé, non, parce que d'abord, vous avez dit petits singes, oui. Alors je les voyais tout de suite avec
vos grands singes, vos grands singes, d'accord.
Mes primates.
Vos primates.
Mes primates.
Nos ancêtres.
Bon. Ah si, les primates sont très intelligents. Ah oui, ils sont très intelligents.
Alors, vous dites le propre de l'homme. Mais qu'est-ce que le propre de l'homme? Et simplement, moi, je m'accorde à ce que vous écrivez, Robert Merle. Le propre de l'homme, est-ce le rire? Mais les chimpanzés rient aussi. Le propre de l'homme, est-ce la raison? Mais comment la refuser aux dauphins et aux primates, à qui l'on voit faire tant de choses étonnantes qui ne relèvent pas d'un simple dressage? Le propre de l'homme, enfin, est-ce le langage? Mais peut-on le dire encore quand on voit un chimpanzé s'exprimer avec ses mains comme un sourd et muet?
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors là, c'est une avancée colossale que l'on a faite au moment où on s'est dit. On a essayé de leur apprendre à l'anglais. On a essayé de leur apprendre l'anglais aux chimpanzés, mais on n'y est pas réussi. Ils ont appris 3-4 mots et puis c'était tout. Alors, on s'est dit, ils ont des mains humaines avec le pouce opposé aux autres doigts. Ils ont des mains humaines, ils en ont même aux pieds, des mains. Bon, et on peut leur apprendre à parler avec les mains. Et les gens qui ont fait ça, ce sont des chercheurs américains, les Gardner, que je connais bien, qui sont venus manger à la maison.
Donc l'histoire est vraie.
Ah, l'histoire est tout à fait vraie. Oui, ah oui, oui, tout ce que je dis là, et je n'extrapole pas. Hein, pas.
Alors, comme je parle d'histoire, je vais la raconter très très vite. Passionné par les travaux des chercheurs qui étudient les grands singes, donc vos personnages, Edmond Dell et sa femme, adoptent à sa naissance une chimpanzée,
oui,
une femelle,
chimpanzée.
Une femme, une dame, qu'ils appellent Chloé, et qu'ils élèvent comme un bébé humain. Et ils entreprennent de lui enseigner, comment vous appelez ça?
L'ameslan.
L'ameslan.
C'est un langage des sourds et muets.
Ouais, un langage par signe utilisé aux États-Unis, en effet, par les sourds et muets. L'ameslan. Donc voilà un singe, une jeune chimpanzée qui est adoptée et qui vit dans cette famille comme un enfant. Donc l'affaire est exacte, c'est-à-dire des chercheurs que vous connaissez ont réalisé la même aventure.
Ils l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait avec un chimpanzé et il y en a qui l'ont fait avec un gorille.
On connaît déjà cette dame qui a vécu avec les gorilles.
Ah oui, oui, mais ça, c'est différent. C'est complètement différent.
Ah, c'était quand même une approche tout à fait particulière.
Ah bah oui, bon, c'est-à-dire qu'elle est...
Moi, j'ai vu les gorilles en forêt.
Oui, oui.
Croyez-moi,
oui.
Je ne m'approche pas.
Ah ben, on n'a pas envie. Hein? Non, il n'y a pas de raison. D'ailleurs, c'est un animal sauvage.
Et je les aime beaucoup.
Le chimpanzé aussi est un animal sauvage. Hein? Oui. C'est justement ce qui est arrivé à la fin du roman. Bon, alors...
Ne racontons pas la fin.
Mais il y a une différence entre le fait d'aller sur place, dans la nature, dans la forêt tropicale, étudier, comme l'a fait Jane Goodall pour les chimpanzés ou Diane Fossé pour les gorilles, étudier l'animal dans la nature. Et autre chose, c'est de prendre cet animal, quand il est tout petit, et d'essayer de lui apprendre l'ameslan. Ça s'est fait pour les chimpanzés et ça s'est fait pour les gorilles. Miss Patterson a appris à son gorille Coco à parler l'ameslan. Bon. Alors... Donc c'est fondé, le livre est fondé non pas sur des hypothèses, non pas sur une imagination, mais sur des faits avérés. Ceci dit, c'est un roman, c'est-à-dire il y a des personnages, il y a une psychologie,
oui, mais l'histoire est quand même celle-là, c'est-à-dire qu'il a fallu que vous alliez rechercher, faire des enquêtes. Êtes-vous allé par exemple dans la forêt?
Ah non.
Ah ben, quand même, il faut aller jusqu'au bout pour essayer de voir comment
vivre. Non, mais ça ne m'aurait pas servi d'aller dans la forêt. Il aurait fallu simplement que j'aille voir des chimpanzés en cage et dans un cirque. Et c'est ce que j'ai fait.
Vous y êtes allé?
Ah oui, oui. Ça,
êtes-vous allé aux eaux de Berlin?
Non, je ne suis pas allé aux eaux de Berlin. Là, là. Mais ce n'est pas le meilleur pour les chimpanzés.
Je crois...
Le meilleur, c'est celui d'Arnhem, en Hollande.
Ah, je ne le connais pas.
Oui, parce qu'ils ont un énorme terrain d'un hectare dans lequel les chimpanzés sont en liberté avec des arbres et il n'y a pas de grille, il y a simplement un cours d'eau qui circonscrit ce terrain de jeu, cours d'eau qu'ils ne peuvent pas franchir parce qu'ils n'aiment pas l'eau. Ils n'aiment pas l'eau. Alors, les gens disent qu'ils n'aiment pas l'eau parce qu'ils ne savent pas nager ou ils ne savent pas nager parce qu'ils n'aiment pas l'eau. Mais ils n'aiment pas l'eau. Et ils restent là et on les observe à la jumelle toute la journée et ils ont une vie heureuse, parce qu'une vie qui est protégée contre les prédateurs et surtout contre les braconniers. Vous savez qu'en ce moment, les braconniers, pour les gorilles, c'est la fin de l'espèce. Si on n'y met pas un terme, c'est la fin des gorilles.
Êtes-vous, Robert Merle, contre les eaux?
Je ne suis pas contre les zoos, mais ça m'ennuie un petit peu de voir toutes ces bêtes en cage. J'aimerais qu'on fasse comme on a fait à Arnhem, vous voyez, c'est-à-dire qu'on leur donne qu'on les remette dans des situations qui soient presque naturelles.
Oui, mais c'est toujours un zoo. Regardez à Berlin, par exemple, les ours blancs. Il y a une trentaine. Ils ont un espace considérable. Mais on peut dire aussi qu'ils sont quand même dans un espace rétréci. Et je parlais des...
Oui,
des...
mais s'ils sont à plusieurs. Oui, ils sont, comme vous m'avez dit, ils sont à plusieurs.
Ah, oui,
hein.
C'est un ensemble magnifique.
Alors, s'ils sont à plusieurs, c'est bien, on a reconstitué le groupe.
Alors,
c'est ça qui est important.
On revient aux singes, aux chimpanzés, aux gorilles. Je vais vous donner mon impression. Bon, on connaît beaucoup de zoos dans le monde, mais celui de Berlin est très particulier. Lorsque je vois ces chimpanzés, lorsque je vois ces gorilles, j'ai l'impression, derrière les grilles, j'ai cette impression qu'ils me regardent et qu'ils me disent « entre et viens me parler ». C'est-à-dire que je les sens malheureux. Et c'est terrible, cette impression, mais malheureux. Alors, vous les avez étudiés de très près. Vous avez voulu les faire vos enfants. Mais dans le même temps, vous n'allez pas jusqu'au bout de votre ambition. Car, racontons cette histoire, il fallait que vous puissiez vivre chez vous avec un chimpanzé. Il fallait aller jusqu'au bout de l'aventure. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes contenté d'écrire un roman.
Ah oui, mais il y a une grosse différence entre le romancier qui travaille à sa table de travail et le chercheur... Qui apprend la Meslan. D'abord, tout le monde ne peut pas être un chercheur de ce genre. Il faut être anthropologue, il faut être zoologue, il faut avoir une formation, il faut être un psychologue aussi. Bon, il y a une formation. Les gens qui ont fait ça, Dale, par exemple, est un anthropologue. La plupart du temps, ce sont des psychologues. Ils ont une formation spéciale, vous comprenez. Je ne pourrais pas faire une chose comme ça. Je peux la raconter. C'est tout ce que je peux faire.
Donc la Meslan, c'est un langage des sourds et muets. Donc les sourds et muets devraient avoir une communication rapide, immédiate, avec les chimpanzés et les gorilles.
Ah ben si, si.
Et, avec même peut-être les dauphins, pour peu que ce soit sifflé.
Il faut apprendre à décoder le sifflage.
Hein. Oui, oui.
Ils ne peuvent avoir de communication qu'avec des gorilles ou des chimpanzés à qui on a appris la Meslan. Mais vous savez, la connaissance qu'ils ont de la Meslan reste une connaissance élémentaire. Ils ont environ 200 mots de vocabulaire actif, c'est-à-dire qu'ils peuvent employer, et 400 mots d'anglais, alors on leur parle en anglais aussi, mais qui est un vocabulaire passif, c'est-à-dire c'est un vocabulaire qu'ils comprennent mais qu'ils ne peuvent pas employer. Si vous voulez une référence, un chien connaît à peu près 50 mots de vocabulaire passif. C'est-à-dire qu'il comprend quand on lui dit « va prendre ta laisse, on va aller en promenade ».
Apporte.
Apporte, oui. Etc. Il comprend. Une cinquantaine de mots. Alors, vous voyez, il y a de loin 200 mots et même pour un gorille, 400 mots actifs. Ça, il y a une grande différence. Il y a vraiment une communication avec le monde animal. Alors, elle est importante. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se mettre tous à parler. Mais elle est importante.
Mais d'où vient chez vous cette passion pour le monde animal, pour cette communication, pour le langage des animaux ?
Eh bien,
c'est venu très jeune.
Bon, alors, peut-être ça se rattache à une idée philosophique que j'ai. Moi, je pense que l'homme est mal parti dans la vie parce qu'il s'est considéré comme presque l'égal de Dieu et en tout cas comme le roi de la création qui avait un pouvoir absolu sur la nature et sur les animaux. Bon, d'ailleurs, quand on lit la Genèse, on voit qu'on lui a donné cette espèce. Bon, et moi, je trouve que c'est cette domination sur la nature et sur les animaux, c'est quelque chose de mauvais. Je pense qu'il devrait, au contraire, sentir qu'il y a un lien chez lui, un lien entre l'animal et l'homme, et une communication, justement. Ça montre que, vous savez, on parle de nos frères inférieurs. Bon, mais ils ne sont pas tellement inférieurs, nos frères. Voilà, au fond, le message sous-jacent.
Oui, ils ne sont pas tellement inférieurs, ils ne parlent pas, ils ne réagissent pas comme peuvent réagir les hommes. Il ne faudrait quand même pas faire non plus là
trop
de démagogie.
Non. Ils ont 10 millions d'années de retard sur nous.
Donc, ils pourraient rattraper ?
Non.
Ah, c'est ça qui est intéressant.
Non, c'est pas possible. Les
millions d'années,
non,
les
non.
singes, les chiens, tout ça,
non,
feront
non.
des conférences.
Ça serait remarquable.
Se présenteront aux élections.
Ça serait remarquable. Oui.
Mais vous n'y croyez pas.
Non, pas du tout.
Alors, il y a également vraiment un autre pan de ce que vous pouvez réaliser lorsque vous écrivez. Robert Merle, vous êtes subjugué par ces primates, mais certaines personnes pratiquent une sorte de racisme à l'encontre des singes, car on le sait bien, ceux-ci nous renvoient comme dans un miroir, l'image de lointains ancêtres.
Ouais, c'est
et
ça,
cela pose
c'est
quand
ça.
Même quelques sérieux
c'est ça,
problèmes.
C'est ça, c'est ça,
alors
c'est
sommes-nous ça. Vraiment les descendants de tous ces primates?
Ah, ce pour les anthropologues, il n'y a aucun doute là-dessus.
Ah, pour eux, oui.
Ah, mais
et
oui.
Même pour toute l'histoire de l'homme.
Et même pour toute l'histoire de l'homme, non, il n'y a aucun doute. Il y a
on des peut s'interroger quand même.
Il y a des chaînons intermédiaires.
Oui.
Non, non, c'est scientifiquement tout à fait avéré maintenant. Oui. Mais bon... alors, il y a des gens qui acceptent cette idée et il y a des gens qui luttent contre elle. Aux États-Unis, vous savez, il y a des gens hein, tout à fait intolérants qui flanquent à la porte les professeurs de sciences naturelles qui enseignent l'évolution de Darwin. Ils n'acceptent pas cette vérité-là. Mmh. Bon, parce qu'elle est contraire à leurs convictions religieuses ou morales, je ne sais pas exactement. Et il y a dans l'attitude de l'homme... Enfin, moi, je vais souvent, depuis que j'écris ce livre-là, je vais souvent au jardin des plantes où il y a... D'ailleurs, ça change. Il y a toujours le même mâle. Mais là, la dernière fois que je suis allé le voir, il y avait une femelle de plus. Mmh. Je ne sais pas s'il en est très content. Lui, il a l'air de bien s'amuser parce que c'est un comédien terrible. Il fait des charges...
Ah, ce sont des comédiens.
Ce sont des comédiens, oh, oui. Alors, il fait des charges pour impressionner la galerie. Mmh. Il est très content quand les gens poussent des hauts et des has. Il mendie des biscuits. Et moi, il me connaît.
Il me connaît. Il vient vers vous ?
Ah, non, non, il me crache dessus. Mais ce n'est pas du mépris, c'est du jeu. Ça prouve qu'il me connaît et qu'il m'aime bien.
Oui.
Bon, alors j'essaye de me protéger quand même. Oui. Je me mets à vie imperméable. Mais il a fait ça la première fois parce qu'il trouvait que je donnais trop de biscuits à sa femelle et pas assez à lui. Alors il m'a craché dessus. Mais après, il me reconnaît. Et pourtant, j'étais venu un mois plus tôt. Et il m'a recraché dessus. Oui. Mais il riait en faisant ça. Il trouvait ça marrant. Il trouvait que c'était une bonne farce.
Mais ce jeune singe, celui que vous racontez, celui que vous écrivez, celui qui est vraiment le personnage de votre livre, Le Propre de l'Homme... Ce jeune singe, vous finissez par l'aimer, vous finissez par croire que vous pourriez vivre avec lui. Parce que ces gens, ces chercheurs qui ont pris ce singe comme leur enfant, je me demande s'ils seraient capables d'avoir un véritable enfant près d'eux.
Ils en ont eu.
Ils en ont eu, vous allez être sûr ?
Oui, ils en ont eu. Ils en ont eu. Et par exemple, les Kellogg qui n'ont pas appris la Meslan, mais qui ont élevé un enfant en même temps que leur garçon. Et Madame Kotz, qui a élevé, c'était une Russe, qui en 1917 a élevé un petit chimpanzé. Je dis 17 parce que c'est étonnant en pleine révolution russe d'élever un chimpanzé.
Ah oui.
Il y a vraiment des scientifiques originaux. Bon. Alors, en 1917, elle a élevé ce petit chimpanzé. Je crois qu'il est mort au bout de 4 ou 5 ans. Et après, elle a eu un bébé. Et alors, elle avait tenu un journal au moment de l'élevage du petit chimpanzé. Elle a fait un journal aussi de son petit garçon. C'est un garçon, dans tous les cas. Et elle les a comparés. C'est très intéressant.
Mais avouez, Robert Merle, quand même, qu'il y a une mauvaise compagnie. C'est-à-dire un chimpanzé, qu'on élève comme un enfant, ça je veux bien. Mais lorsque vient le bébé, un chimpanzé et un enfant... Je veux dire que ça n'est pas une bonne chose. Je ne le pense pas.
Tant qu'ils ont à peu près le même âge, ça va. À partir d'un certain âge, il faut les séparer.
Oui, on voit la fin de votre livre,
oui,
donc on ne va pas le raconter.
Oui, oui.
Mais quand même, moi, ce dont je me méfie un tout petit peu, quand même, ceux qui ont fait ces expériences, puisque l'histoire que vous racontez est exacte, puisqu'en effet, des chercheurs ont élevé une jeune chimpanzé, un jeune singe comme un enfant, mais ils l'ont élevé comme des chercheurs. Est-ce qu'ils l'ont élevé aussi? Il y avait le regard des chercheurs.
Non.
Ils l'ont élevé avec le cœur, avec amour?
Ah oui, avec amour.
Oh, l'expérimentation devait avoir une grande place quand même dans cet amour.
Il y a des gens qui l'ont élevé avec amour et il y a des gens qui l'ont élevé sans amour. Mmh. Ceux qui l'ont élevé le chimpanzé sans amour ont échoué. Mmh. Bon. Et ceux qui étaient un couple uni et qui ont élevé le chimpanzé avec amour, exactement comme un enfant, ils ont réussi à lui apprendre. Ça ne veut pas dire qu'ultérieurement... Bon, le passage difficile, c'est le moment où la chimpanzé devient pubère. C'est le passage difficile. Mmh. En même temps qu'elle devient pubère, elle devient très forte. Elle devient beaucoup plus forte physiquement que son entourage. Mmh. Et ça pose évidemment des problèmes.
Alors, je reviens à cette jeune chimpanzé que nous n'avons d'ailleurs pas quittée. Elle est élevée en toute liberté. Elle profite pleinement des conditions idylliques. Elle est un bébé heureux auprès de parents qui l'ont choisi. Simplement, ça n'est pas un enfant, c'est un singe. Elle est choyée par ses parents. Donc, au départ, le projet Chloé, c'est-à-dire élever un singe comme un enfant, ce projet réussit, au départ.
Le projet réussit. Le projet réussit.
Ensuite, les progrès sont lents. Il faut bien le remarquer.
Oui.
Chloé apprend à communiquer par signes. Mieux, elle fait de la Meslan. Et la Meslan, ça va rentrer maintenant dans les conversations. Hein. Vous parlez quoi? Je parle la Meslan, non?
Ah oui, hein, vous
je
savez,
parle la Meslan.
C'est-à-dire que la Meslan, c'est un langage par signes où chaque signe désigne un mot. Oui. Par exemple, un bébé, ça se dit comme ça. Vous voyez,
c'est il faut faire des gestes.
On croise les bras sur la poitrine. Je le dis parce qu'on ne peut pas nous voir.
Oui, oui.
On croise les bras comme si on portait un bébé.
Oui.
Aimer, ça se dit comme ça. C'est-à-dire les deux points sur la poitrine.
Oui.
Bon, l'un sur le cœur et l'autre ailleurs. Bon. Le travail, qui est un signe abominable, vous allez voir, on ferme le poing gauche et au-dessus du poing gauche, on passe le poing droit avec violence.
Oui.
Vous voyez, avec violence. Voilà le travail, vous voyez. Oui. C'est affreux. Dès qu'on voit ça.
Comme si on rabotait.
C'est ça. Dès qu'on voit ça, on n'a plus envie de travailler du tout. Joli, c'est très joli aussi. Joli, on fait un cercle autour de la tête comme si on l'encadrait.
Oui.
Alors, si on veut dire à une femme qu'elle est jolie, on lui désigne, ça veut dire toi.
Oui.
Toi. On lui dit qu'on l'aime, alors on croise les poings sur la poitrine.
Oui.
Bon. On lui dit qu'on aimerait la bercer comme un bébé, alors vous connaissez le signe, et on lui dit enfin qu'elle est jolie, c'est-à-dire on fait un cercle
autour du visage,
autour de la tête, comme si on l'encadrait.
Et pour dire je suis jaloux, ça se dit aussi ça,
Anna Merlan. Oui, ça se dit sûrement, mais j'ai
Ameslan.
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 Oui,
il ne faut pas se tromper.
C'est un American Sign Language.
Oui.
Bon.
Alors,
Ameslan.
Comme un bébé humain, elle utilise le langage pour injurier ceux qui la contrarient. Et pour couvrir ses petits méfaits par des mensonges enfantins, parce qu'elle a tout un langage.
Oui, alors,
elle injurie.
Oui, mais la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est qu'elle fait du langage un emploi créateur. C'est un emploi créateur de prendre un mot qui désigne le WC ou quelque chose de sale et de le diriger contre quelqu'un. Ça veut dire qu'elle a compris, au-delà du mot propre que ça désigne, qu'on pouvait l'employer aussi contre quelqu'un, dans une certaine agressivité. Et aussi, c'est une histoire que je ne raconte pas. Alors, comme elle est inédite, je vais vous la raconter. C'est un gorille. Un gorille qui s'appelle Coco, et à qui on apprend la Meslan, il mord son instructrice. Et l'instructrice, bon, ce n'est pas une morsure très forte, bien sûr, heureusement pour elle. Et alors, elle se soigne. Et puis, elle garde la cicatrice sur la main. Et elle lui dit Coco, il s'appelle Coco. Il dit Coco, toi, mordre-moi. Bon, en Ameslan. Et lui, qui a honte, parce qu'il aime beaucoup son instructrice, il ment. Il dit « moi, pas mordre ». Alors, elle lui dit, toujours en Ameslan, elle dit « si, Coco, toi, mordre, moi ». Alors, il réfléchit et il dit « Coco, pas dents ». Pas dents. Il nie qu'il a des dents. Dans un large sourire qui les montre toutes, d'ailleurs. Vous voyez, c'est un mensonge délicieux et enfantin, et ça montre combien l'emploi du langage peut être créateur.
Alors, dans cette histoire, dans cette affaire, dans l'affaire vraie, c'est-à-dire ces chercheurs qui ont élevé un singe, et dans votre roman, Le propre de l'homme, où il y a ces mêmes chercheurs, mais que vous avez réinventés, et qui éduquent cette jeune chimpanzé, il y a donc des parents qui ont un enfant, et qui disent... Ce singe est notre enfant. Mais je voudrais savoir si Chloé, l'enfant, reconnaît ses parents comme ses parents.
Oui, alors...
Alors là, c'est quand même un peu plus difficile.
Oui, mais vous savez, là, il y a les fameuses expériences du professeur Lawrence qui prétend, d'après les expériences qu'il a faites...
Est-elle leur fille ?
Qu'un animal considère comme ses parents la première personne qu'il voit quand il naît. C'est ça. Vous savez, c'est l'expérience de la canne. Il attend que les œufs de la canne, etc. Et les petits canetons vont le suivre partout parce que les canetons le prennent pour la mère. Bon. Alors, chimpanzé, le petit chimpanzé, Chloé, ouvrant les yeux et voyant Suzy et voyant Dale, Suzy, c'est la femme de Dale, du chercheur, la considère véritablement comme sa mère et considère Dale comme une autre mère. L'idée de père ne vient pas là du tout. Parce que, au fond, les chimpanzés ne sont pas élevés par les pères. Les pères ne s'en occupent pas, et ça vaut mieux parce qu'ils pourraient être mangés.
Et ce qui est amusant, c'est que vous faites parler ces bêtes, c'est la Meslan, mais comme c'est presque petit nègre. Chloé aimait donner chocolat.
Oui, c'est ça.
Donc c'est un langage, rien n'est inventé.
Ah ben non.
On ne fait que reproduire.
Ah ben oui, c'est un langage qui est fondé sur les mots.
Oui. Alors le drame, c'est ou le bonheur. C'est que Chloé, ce jeune singe, cette dame singe, devient pubère et adulte. Et c'est là que ça se complique, parce qu'elle fait aux hommes de la maison des avances sans équivoque. Et elle s'attriste de les voir repousser.
Ben oui,
alors comment elle fait pour ça ? Là, elle n'a pas de mots. Elle a des gestes.
Non, le geste, alors, si vous me permettez de le décrire un peu crûment.
Oui.
Bon, un peu crûment, elle tourne le dos et elle recule jusqu'à ce qu'elle trouve un mâle sympathique et attirant devant elle pour se faire prendre.
Et elle sait où elle va.
Ah ben oui.
Elle ne va jamais vers une femme.
Elle ne va jamais vers une femme.
Ouais.
C'est toujours un homme.
Ouais.
Bon. Et alors, elle essaye ça avec tous les hommes de la maison et ça ne marche pas du tout. Elle se fait repousser. Et alors là elle commence à être malheureuse.
Elle est frustrée.
Elle commence à être malheureuse. Mais vous savez, il y a d'autres exemples. Il y a par exemple une chimpanzée qui avait été élevée par quelqu'un de célèbre en France. Bon, je ne veux pas dire son nom parce que pour lui, ça a été une véritable tragédie et je ne veux pas du tout la lui rappeler. Mais cette chimpanzée avait tellement le besoin de la maternité. Ça se passait au bord de la mer, qu'elle allait sur les plages chipper les bébés des femmes qui étaient là. Bien sûr, ça produisait des tragédies, parce que vous imaginez de voir votre bébé enlevé par un singe qui est déjà redoutable. Bon. Et, bon, mais donc, ils ne sentent pas instinctivement la différence qu'il y a entre eux et nous, puisque génétiquement, ils sont si proches de nous. Ils sont à 99% proches de nous. Alors évidemment, ils ne sentent pas la différence.
Et c'est pour cette raison, Robert Malle, que le roman est beau, parce qu'elle est élevée, elle grandit, on la considère comme la fille de la maison, donc elle se considère comme une femme. Elle fait des avances aux hommes, ce qui est tout à fait normal, c'est la loi de la nature. Et puis comme elle est repoussée, elle se sent frustrée, elle est rejetée par tout le monde. Et alors à ce moment-là, elle se dit « je suis différente » et elle se croit laide.
Oui, alors ça, c'est le tournant, c'est le côté...
Terrible,
oui,
ça.
Oui. Ça, je dois dire que là, l'imagination du romancier a marché quand même pas mal.
Ah oui, pas mal.
Oui, non, mais il a
parce
fallu...
Parce que je ne la crois pas si malheureuse, en tout cas, pas à ce point-là.
Non.
Elle est malheureuse peut-être pour d'autres raisons.
Oui, mais enfin, la frustration sexuelle chez un animal comme chez l'homme, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Et ça amène un dérèglement et un déséquilibre, tout le monde le sait. Bon, mais là, je dois vous dire que je pense que c'est vrai. C'est-à-dire que je suggère là une expérimentation qui n'a pas été faite. Bon, l'usage du miroir a été fait, hein, l'expérience du miroir. On a mis un miroir à pied dans une cage où il y avait des chimpanzés, et au bout de 20 heures, ils ont compris que ce qu'ils voyaient dans le miroir, c'était un reflet. Et on s'est aperçu de la façon suivante. À l'insu du chimpanzé, on a maculé sa joue de peinture, il s'est avancé vers le miroir, et il a frotté sa joue. Il n'a pas frotté la joue du miroir. Non, alors on s'est aperçu, voilà, il sait ce que c'est qu'une image de lui-même. Bon, alors... J'ai employé le miroir comme ça, et je l'ai employé comme elle se regardait avec une petite fille. Elle a vu que la petite fille, qui était très mignonne, était différente d'elle, et elle en a conclu qu'elle était laide.
Alors
vous savez, elle avait renié sa mère. Oui. On lui avait montré la photo de sa vraie mère, et finalement, elle avait dit qu'elle était singe, sale, puant, WC, enfin ses injures habituelles, et finalement, elle avait déchiré la photo de sa mère. Et ça, c'est vrai. On avait présenté à la chimpanzé des Gardner la photo de sa mère et elle l'avait mis carrément de côté en disant avec des commentaires tout à fait désobligeants. Donc, elle refusait son identité de chimpanzé.
Robert Merle, je ne vais pas raconter tout le livre, mais je vais dire quand même que se sentant laide, repoussée, elle va s'éloigner justement de sa famille humaine. Elle va se prendre d'amitié pour un chien. Puis le chien, à un certain moment, va être tué. On ne va pas raconter comment. Mais ce qui paraît important, c'est que ce n'est ni la parole, ni même la raison qui distingue l'homme du primate. C'est la conscience que l'homme a, sa vie durant, que sa propre mort est le seul événement qu'il puisse prévoir avec certitude.
Oui, ça, c'est le propre de l'homme.
Ça, c'est le propre de l'homme.
Ah oui, ça, c'est le propre de l'homme. Et évidemment, ça a beaucoup de conséquences, parce que cette conscience que l'homme prend de l'inectitude, que la mort est le seul événement qu'il puisse prévoir avec certitude, ça entraîne de toutes sortes de choses. Ça entraîne les rites funéraires, ça entraîne les fantômes, les démons, les anges, et c'est le fondement de toutes les religions.
Je peux vous dire.
Vous savez, alors là, je rejoins Vercors, qui dans Les animaux dénaturés disait que c'était la religion qui était le propre de l'homme. Et moi, je dis, je passe par le chaînon intermédiaire, je dis, c'est la conscience de la mort qui amène à désirer si fortement notre survie que nous arrivons à imaginer, enfin, une après-vie après la mort.
Je peux vous dire, Robert Merle, qu'une fois encore, vous avez réussi votre coup. Je ne sais pas si vous irez jusqu'au bout de l'aventure, c'est-à-dire avoir chez vous un singe, une jeune chimpanzé que vous allez élever comme un enfant, Il faudrait le faire.
Non, je ne le ferai pas.
Ah non, bon, d'accord. Non. Alors, on s'en tient au livre.
On s'en tient au livre,
Et ce livre paraît aux éditions de Fallois. J'en rappelle le titre, Le propre de l'homme. Et vraiment, c'est une très, très, très belle histoire. Merci, Robert Merle.
Merci, Jacques Chancel.